Pauline Pucciano, La Cité d'Albâtre, chapitre 14, La Cité Monastère. Si la haute ville faisait étalage de son orgueil, avec ses flamboiements de formes et de couleurs, la cité monastère, elle, faisait acte d'humilité à travers l'ocre homogène de ses vieilles pierres polies et l'unité mystérieuse de son architecture. La géométrie dans la haute ville servait à crier la toute-puissance de l'esprit humain, dont l'intelligence mathématique parvenait à défier les lois de la pesanteur. Dans la cité monastère, elle était là pour apaiser l'esprit, pour adoucir le regard. Le vertige et l'éblouissement de la première faisaient pendant à la paix et à l'harmonie de la seconde. Là-bas, tout était stimulation des sens. Ici, tout était recueillement de l'âme. La nature, encerclée et domestiquée en haute ville, et qui s'épanouissait dans des jardins somptueux, était, en ce flanc de montagne, vierge et sauvage, immense et sublime, et entourait la cité monastère comme une mer. À Eleanor avait marché 2 jours, et s'était reposée 2 nuits depuis sa rencontre avec Sornard. Ses indications lui avaient fait gagner un temps précieux, et elle était arrivée au chaos des rochers vertigineux peu après le lever du soleil. Ces étranges formations minérales, issues d'on ne devinait quel séisme ancien, projetaient leurs ombres torturées sur la roche rouge de la montagne. Telles des statues de géants difformes, à l'équilibre improbable, ces monolithes s'étendaient sur plusieurs arts, véritables labyrinthes qu'Eleanor avait traversés dans un état de contemplation profonde. Puis elle était parvenue en contrebas de la cité monastère, perchée entre la masse verticale des pics et le gouffre splendide qui s'ouvrait à ses pieds. Elle s'était arrêtée pour reprendre son souffle, lorsqu'une nuée de papillons rouges s'était jetée sur elle. Il s'était posé sur ses bras, son visage, ses mains, et elle avait ressenti à leur contact un curieux picotement, suivi d'une sensation brusque de faiblesse mentale. Elle avait essayé d'utiliser l'esprit, sans succès, puis s'était souvenue d'une espèce de papillon, nommé sensu mental, qui vampirisait l'énergie psychique de leur victime. Elle avait songé qu'il s'agissait probablement d'une mesure de protection des spiritualistes à l'encontre de leurs visiteurs, et s'était demandé fugitivement comment Sornard aurait contourné ce problème. Puis, rendue un peu mal à l'aise par cette bizarre faiblesse de l'esprit que l'on éprouvait d'habitude qu'après un effort psychique intense, elle s'était apprêtée à se présenter à la cité. C'était une belle matinée, à la fois lumineuse et voilée, et Laerte regardait fréquemment par la fenêtre de l'atelier pour plonger les yeux dans le gouffre clair et verdoyant qui s'ouvrait en contrebas. Puis il reprenait son œuvre. Aujourd'hui, un étrange cheval de bois, dont il ne savait pas encore s'il serait statue ou jouet. Les lignes et les arêtes jaillissaient de ses outils, et Laerte se rendait compte, au fur et à mesure, que le cheval donnait à la fois le sentiment d'une grande puissance et d'une grande lassitude. Ses formes élancées et racées étaient comme alourdies par un mouvement ralenti. Ce pur sang était un cheval de retour, et rayonnait d'un dernier éclat. Était-ce un signe? L'âge du bâtir allait-il prendre fin pour lui? Il s'interrompit un moment et regarda autour de lui l'atelier qu'il avait amoureusement conçu et habité, lieu de gestation et d'avènement qui avait veillé sur toutes ses œuvres. N'en avait-il pas assez? La création et la poursuite de la beauté lui avaient procuré d'immenses joies, et il avait cru par instant que cette source était inépuisable et que l'âge du bâtir, pour lui, ne cesserait qu'à l'heure de la mort. Mais ce matin, il venait à en douter, et regardait son cheval fourbu comme on écoute son propre cœur, avec fascination et anxiété. Il regarda à nouveau par la fenêtre, et aperçut une jeune fille qui gravissait le sentier en direction de la cité. Il abandonna son cheval, encore à moitié prisonnier de sa gangue de bois, ajusta l'élégant surplis de sa toge, et sortit, sans précipitation. Tout était serein dans le monastère. On entendait quelques chants, quelques outils, quelques oiseaux, quelques rires qui se confondaient. Des enfants jouaient sous la surveillance rêveuse d'un vieillard. Des chiens et des chats se réchauffaient au soleil. Un fumet délicat s'exhalait des cuisines, ainsi qu'un parfum de lessive fraîche s'exhalait du lavoir. Un couple d'amoureux, au creux d'une vieille arche de pierre, se murmurait des baisers. Laerte ne jugea pas utile de troubler ce calme. On le disait sage, et il irait seul à la rencontre de la visiteuse. Il éprouvait un peu de curiosité et un léger ennui à avoir été dérangé dans le cours de son travail et de ses réflexions, mais lorsqu'il aborda à Eleanor, il lui offrit un visage accueillant. « Je te souhaite la bienvenue, jeune fille. » À Eleanor le remercia. Elle était surprise par la beauté de cet homme, l'élégance de sa tenue, l'impression de plénitude matérielle et spirituelle qu'il dégageait. Elle se rendit compte qu'elle s'attendait à rencontrer d'austères ascètes, épris de crasse et de privation. Or, elle se retrouvait devant quelque chose de beaucoup plus familier. La cité monastère, de plus près, ressemblait à la haute ville, autant qu'elle en différait. Comme deux sœurs dissemblables, elles gardaient toutes deux une empreinte commune, un air de famille, qui sautait aux yeux des étrangers. « Je m'appelle Eleanor, et j'ai quitté la haute ville. Viens-tu nous demander l'asile ?» demanda Laerte d'une voix neutre. « Pas plus de quelques jours. J'ai fait un long voyage pour vous trouver, et je suis porteuse d'un message. M'autorises-tu à toucher ton esprit ?» Eleanor se raidit un peu, car le dernier contact spirituel qu'elle avait eu l'emplissait encore de dégoût, et qu'elle se sentait trop faible et trop vide pour contrôler la situation. Elle hésita. « De quoi as-tu peur, Eleanor ?»« Je n'ai pas l'habitude de livrer mon esprit sans défense à l'investigation des autres. Et cela te fait peur. Là d'où je viens, la confiance est une chose rare et précieuse. Les choses rares ne sont pas toutes précieuses, et les choses précieuses ne sont pas toutes rares. Tu as une drôle de façon de me dire que tu n'as pas confiance en moi. Je ne voulais pas vous offenser. Pourquoi m'offenserais-tu ? Je ne te connais pas. Malheureusement, je ne puis t'offrir l'hospitalité, jeune fille. Veux-tu que je t'apporte de quoi boire ou manger pour ton voyage de retour ?» Eleanor se sentait épuisée et stupide. « Mon message ne vous intéresse pas ? » demanda-t-elle. Laerte sourit d'un air condescendant. « Tu parles comme une enfant beaucoup plus jeune, dit-il. C'est étrange. C'est toi qui viens me solliciter, et non le contraire. Si tu estimes que ton message ne vaut pas la peine de te soumettre à nos usages, c'est probablement qu'il est de moindre importance. » Eleanor ferma les yeux un moment, puis tenta de se reprendre. « Je vous en prie, dit-elle, reprenons cette conversation. J'accepte que vous touchiez mon esprit. » Laerte sourit en fronçant les sourcils, intrigué. « Tu ne sais pas qui tu es, ni ce que tu veux, dit-il, un peu moqueur, et cela je le sais, sans avoir recours à l'esprit. » Puis sa pierre frontale s'alluma et diffusa une belle lumière blanche. Eleanor soutint son regard et sentit une présence discrète, mais puissante, s'infiltrer en elle. Ce n'était pas désagréable, comme de se montrer nu à un autre. C'était seulement d'une intimité inhabituelle qui l'embarrassait. L'examen dura une ou deux minutes, puis la pierre de Laerte s'éteignit. « Tu es porteuse, non pas d'un, mais de deux messages. Et ces deux messages nous sont adressés par deux ennemis. Cependant, si ces messages ont été livrés par hasard, ils ne sont ni l'un ni l'autre la véritable raison de ta venue ici. » Eleanor se sentait de plus en plus fascinée. « Sais-tu toi-même pourquoi tu es venue jusqu'à nous ?» Eleanor réfléchit. « Pour trouver des réponses à mes questions, hasarda-t-elle ?»« Pour devenir ce que tu es, corrigea-t-il doucement. » Il la considéra un moment, et Eleanor songea qu'il n'y avait absolument aucune connotation sexuelle entre eux, et que cela aussi était étrange. Par les années, tu as l'âge du jouir, et par la volonté, tu as déjà atteint l'âge du bâtir. Mais comme les petits enfants, tu n'as jamais dépassé l'âge du devenir. C'est ce qui te rend si bizarre à mes yeux. » Eleanor acquiesça sans comprendre. « Je t'offre l'hospitalité, Eleanor, même si tes messages ne sont pas les bienvenus ici. Tu as besoin d'un donneur pour t'enseigner, et je vais t'en présenter un. » Sur ces paroles, il l'invita à la suivre, et Eleanor, abasourdie, lui obéit tout aussi docilement que sa mule.